À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Mona Ouzouf, on me présente généralement soit comme historienne, soit comme philosophe. Je ne suis pas sûre que ces deux définitions me conviennent, mais je pense que ce sera plus clair à la fin de l'émission.
Troisième épisode, à l'école de la République. Bonsoir, bonjour Mona Ouzouf.
Bonsoir Caroline.
Après avoir parlé de votre enfance bretonne et perplexe, après avoir parlé du temps de la guerre et de votre engagement au Parti communiste français, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est l'un des grands sujets de votre vie, même l'un des grands engagements de votre vie, l'un des grands souvenirs aussi de votre vie, c'est l'école. Et quand je dis l'école, votre rapport à l'école, j'utilise un grand « e ». Parce que là, c'est pas la petite école où vous étiez. Quoique, j'aimerais qu'on commence par ce moment, ces premiers souvenirs d'école, puisqu'on en a peu parlé, et pourtant, vous viviez dans une école, la maison de votre mère, directrice d'école maternelle, était dans l'école où elle était directrice. Donc, vous aviez à traverser la cour pour aller en classe.
Oui.
Et c'est le lieu, écrivez-vous, d'une bienheureuse abstraction. Alors j'aimerais que vous développiez ça, cette école de votre enfance.
La bienheureuse abstraction se comprend dans ce que nous avons dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'elle a été la ressource de cette sorte d'insécurité, de perplexité, de peur, ce mélange bizarre, obscur, par lequel j'ai commencé. Il y a quelque chose à l'école qui m'a profondément rassurée, et ça, ça compte. Le remède à l'insécurité, c'est fondamental dans ce parcours. Et l'école a été ce remède, pourquoi ? Précisément en raison de son abstraction. Parce qu'il est évident qu'à l'école républicaine, on a non seulement le droit, mais le devoir de déposer à l'entrée toutes ces singularités. On entre, on devient un écolier et un futur citoyen de la République, et c'est tout. On n'a pas à montrer d'où on vient. On n'a pas à montrer quelle est sa famille, ni ses opinions, ni même comment on est habillé, parce qu'il y a une blouse pour tout le monde. Et il y a une sorte d'abstraction, en effet, que je ressens comme... profondément sécurisante. À partir de là, il y a une certaine liberté dans cette abstraction. Je méconnais complètement à ce moment-là que les choses probablement ne sont pas pareilles pour les bons et pour les mauvais élèves, parce que je crois profondément, comme l'école elle-même, que le classement est l'instrument de l'égalité. Ce qui aujourd'hui, évidemment, est mis en doute par quantité de pensées, par quantité de gens. Mais à l'époque, c'est la croyance de l'école républicaine que le classement redistribue les places et les statuts d'une manière infiniment plus égalitaire que toutes les autres distinctions, qu'elles soient des distinctions de fortune, de talent, de beauté, de que sais-je. Toutes les autres distinctions s'abolissent. Et on entre dans un monde où, par ailleurs, autre instrument de sécurité, les règles sont connues de tout le monde. Il y a des normes établies et ces normes sont profondément rassurantes. Vous savez que si vous faites 5 fautes à la dictée, vous ne pouvez pas passer le certificat d'études. Vous êtes immédiatement exclu. Mais c'est rassurant parce qu'on sait à quoi s'attendre. Bon, c'est plus rassurant pour le bon élève que pour le mauvais élève, chose qui m'est à cette époque complètement opaque, évidemment.
C'est-à-dire que vous étiez bon élève ?
Oui. Ah. Oui.
Sauf en couture. Je rappelle que c'était une école de filles. Hein.
Oui, oui.
C'était pas encore mixte à cette époque-là.
C'est très loin d'être mixte.
C'est très loin d'être mixte. Vous étiez entouré de filles, et vous aviez des cours de couture. Donc vous étiez bonne à l'école, sauf en couture. C'était pas pour vous, ça ?
Oui, j'étais. Oui, je savais que je ne passerais pas le certificat d'études parce que j'étais en avance et que j'entrerais au collège sans avoir besoin de passer le certificat d'études. Donc la maîtresse n'était pas très regardante sur la leçon de couture, mais j'avais un rôle dans la leçon de couture, c'est comme je lisais bien, peut-être d'ailleurs de manière un peu emphatique, hein, c'est possible, mais enfin je lisais en mettant le ton, comme on disait, je faisais la lecture aux autres. C'est-à-dire que j'étais juché sur le bureau de la maîtresse et avec un des livres canoniques d'ailleurs, parce que j'ai lu comme ça les livres qui racontent l'enfance d'un écolier parisien à la campagne, enfin ce genre de livres, j'ai lu ça assis sur le bureau pendant que les autres cousaient. La maîtresse ayant été découragée par mes productions, elle avait trouvé ce moyen et moi j'en étais absolument ravie. Mais effectivement, j'étais heureuse à l'école à cause de cette profonde sécurité et, sauf à de rares exceptions, mais parfois venue l'idée que, au fond, que je m'en tirais à bon compte et qu'il y avait des domaines dans lesquels j'étais quand même très, très faible. Mais ça a été rare et finalement, j'ai vécu ça comme, oui, une sorte d'assurance.
Remède à l'insécurité dans la classe.
Oui.
Et joie d'être dans la cour avec d'autres élèves, la vie.
Alors, joie en fait. Formidable. Et quelque chose d'ailleurs qui me fait penser à ça, quand je lis les mots de Sartre, le livre que Sartre a consacré à sa formation, et Sartre raconte quelque part qu'il a été pris, mais d'un sentiment violent, de joie, de reconnaissance, de gratitude, parce que dans un jeu quelconque de ballon ou autre chose, quelqu'un a dit « mais passez donc le ballon à Sartre ». Enfin, c'est pas du tout ça, mais c'est quelque chose comme ça. Mais le fait d'être reconnu dans le groupe comme un élément essentiel, important à la cohésion du groupe, lui avait paru une chose absolument merveilleuse. C'était exactement ça pour moi. J'étais très maladroite dans les jeux collectifs. Je n'étais pas 8 pouces, comme on disait. 8 pouces, c'est un nom qui désignait, dans la cour d'école, celui qui repartait du jeu de billes avec un sac de billes plus gros que celui dans lequel il était entré dans le jeu, c'est-à-dire qui avait gagné des billes. Et moi, je dois dire que je perdais régulièrement des billes au jeu de billes, etc. J'étais maladroite et cependant, j'étais acceptée. Et le fait d'être acceptée me remplissait d'une gratitude émerveillée.
Vous vous souvenez donc, Mona Ouzouf, de ces années d'école comme des années heureuses,
oui.
Libératrices, on l'entend, on le comprend. Des années de collège aussi, d'une certaine façon, parce que là, en plus de l'appréciation des cours, vous avez découvert, alors je crois que c'est en classe de 3e, vous avez une professeure de français qui vous a particulièrement marqué. Cette professeure s'appelle Renée Guillou.
Oui.
C'était la femme de l'écrivain Louis Guillou.
Oui.
Vous aviez lu les livres de Louis Guillou et René vous a appris beaucoup de choses.
Oui, mais du reste, j'ai eu une chance folle parce que j'ai eu ce petit collège Ernest Renan à Saint-Brieuc. N'était pas très bon pour les humanités. Je dois dire que je n'ai pas fait de très bonnes études de latin et de grec, et malheureusement d'ailleurs. Mais j'ai eu 3 professeurs de français extraordinaires, parmi lesquels René Guillou, qui avait la particularité d'avoir été le professeur tout jeune de ma mère à l'école normale d'institutrice de Saint-Brieuc. Et ma mère avait été sa meilleure élève, elle en avait gardé un bon souvenir. Elle me repère comme étant la fille de cette bonne élève qu'elle avait eue. Et nous, avec ma mère et moi, un rapport d'amitié. Si bien que je fréquente aussi la maison de Louis Guillou parce que il m'invite pour jouer avec Yvonne, leur fille, qui est un peu plus jeune que moi, et pour éventuellement faire un peu de latin avec Yvonne, ce que nous n'avons jamais fait. Mais du coup, je suis entrée dans cette maison et j'ai bénéficié à la fois de l'enseignement de René, qui était un enseignement très, très libre, pas du tout axé sur les programmes, on le faisait le programme, mais qui avait cette particularité d'être très ouvert à la littérature étrangère. Du reste, si la bibliothèque de ma mère était peuplée de Dickens, Tchekhov, etc., c'était déjà grâce à l'enseignement tout à fait atypique dans une école normale d'institutrice de René. Donc j'ai bénéficié de René et de ses conseils, j'ai bénéficié des conseils de Louis aussi. Et sont un peu différents. Les conseils de René étaient des conseils positifs de lecture. Et c'est elle qui m'a orienté vers la littérature anglo-saxonne, qui devait beaucoup compter ensuite dans ma vie et dans mon travail, en disant, en classe de troisième, à la suite d'un cours sur Iphigénie où elle sentait que les élèves participaient pas beaucoup au sacrifice de cette jeune fille par son père, uniquement pour qu'il y ait du vent dans les voiles de la flotte athénienne, c'était pas facile à comprendre quand même. Et du coup, elle avait senti la réticence collective de la classe et elle avait dit, vous savez, les livres les plus sympathiques, les plus amicaux pour les tourments de l'adolescence, pour vos doutes de l'adolescence, ce sont les romans anglais et en particulier, ce sont, par exemple, vous devriez lire Le Moulin sur la Flosse, livre de George Eliot, livre totalement inconnu de moi jusqu'alors, et que j'ai prié ma mère de me procurer au plus vite, sans du tout imaginer qu'un jour, très tard, j'écrirais un livre sur cette George Eliot, que d'ailleurs à l'époque je prenais pour un homme. Donc, conseil positif de lecture et conseil très, très étendu et très libéraux aussi par René, et chez Louis, une sorte de débarbouillage de mes admirations immédiates et de mes admirations régionales et bretonnes. J'avais beaucoup lu des livres comme « La légende de la mort » d'Anatole Le Braz ou bien les livres de Charles Le Goffic, tout ça peuplait la bibliothèque de mon père. Et Guillou avait entrepris de me dire qu'il fallait peut-être abandonner ses lectures de clocher, qui sentaient leur patriotisme de clocher, ces lectures locales pour quelque chose d'un peu plus intéressant. Guillou était un personnage à la fois avec une grande tendresse cachée, mais très sarcastique. Il m'avait expliqué aussi, par exemple, qu'il fallait surtout ne pas confondre un livre bien écrit avec un livre qui se laisse lire. Et il pensait que la tendance des habitants de Saint-Brieuc, pour lesquels il avait une sorte de recul ou de méfiance généralisée, que les habitants de Saint-Brieuc, pour eux, la qualité fondamentale d'un livre, c'était de se laisser lire. Et c'est-à-dire un livre écrit dans un style très, très fluide, si on est gentil, ou très coulant, si on n'est pas gentil. Qui fait penser d'ailleurs à ce que Flaubert déteste chez George Sand, un style coulant, comme le lait, comme les larmes, comme le sang, avec une sorte de misogynie derrière tout ça, bien sûr, peu importe. En tout cas, Louis Guillou avait décidé de rectifier un peu mes goûts spontanés, une sorte de débarbouillage ou de décrassage que j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois dans ma vie, sorte d'enseignement négatif, très intéressant.
Enfin négatif mais aussi positif puisqu'il vous a fait lire L'étranger de Camus par exemple.
Oui.
Donc
oui,
il vous donnait aussi quelques conseils
positifs. Oui, il y a eu quelques conseils mais l'essentiel de son conseil était quand même un conseil négatif, c'est-à-dire ne pas se laisser prendre à la facilité. Et puis autre truc, quand même autre conseil, pas conseil mais autre prémonition. Il avait lu une dissertation que j'avais faite en composition de dissertation.
Sur Chateaubriand.
Et René nous avait donné un sujet absolument extravagant pour des élèves de troisième. Elle nous avait donné un pastiche de Chateaubriand. Faites un texte qui soit un pastiche de Chateaubriand. Moi, j'avais un avantage, j'en avais lu beaucoup de Chateaubriand, parce que Chateaubriand était dans la bibliothèque de mon père comme une des gloires qui, hélas, avait écrit en français et pas en breton, mais qui quand même illustrait notre terre natale. Et donc j'en avais beaucoup lu, donc ça n'avait pas été trop compliqué, et j'avais fait une sorte de tableautin de la vallée du Gouédic sous la lune, qui était un pur pastiche des promenades de Chateaubriand dans la campagne romaine. Bref, et j'avais fait un texte très court, avec beaucoup d'anxiété d'ailleurs, parce que je voyais les copines de gauche et de droite en mettre long, comme on disait à l'époque. Et moi, c'était un texte très court. Mais Renée en avait été très contente de mon texte. Elle en avait parlé à Louis, qui l'avait lu, et le jeudi d'après, il m'avait entretenu de cela. Et il m'avait dit, tu vois, si on n'est pas capable d'écrire un roman, prémonition quand même, en ce qui me concerne, si on n'est pas capable d'écrire un roman, par exemple, on peut être celui qui sait le plus de choses sur Chateaubriand. Et on peut écrire sur Chateaubriand, et m'avait-il ajouté, ça n'est pas rien. Bon, à l'époque, ça ne m'avait pas dit grand-chose. Mais maintenant...
Mais vous ne l'avez pas oublié.
Mais voilà,
non seulement vous ne l'avez pas oublié, mais effectivement, vous y repensez comme une prémonition.
Oui, j'y repense, en effet, maintenant. Il y avait là quelque chose de prémonitoire, mais en même temps, il y avait une sorte d'idée qu'on pouvait écrire, qu'écrire était une possibilité. Je n'y pensais pas beaucoup, mais de toute façon, tout était pour moi à l'époque un Himalaya impossible à franchir. Même un article dans la presse locale, pour moi, aurait été... Oui, ça venait aussi d'une sorte de religion de l'écrit contractée dans ma famille, avec ma mère, et qui mettait les choses très très loin de moi. Donc je n'y pensais pas pour moi, mais malgré tout, il y avait comme ça une sorte d'invitation à pouvoir écrire. Même si... on n'allait pas jusqu'au roman qui, pour lui, était l'acmé de la création littéraire.
Est-ce que vous vous êtes souvenu, Mona Ozouf, de ces enseignements, de ces professeurs que vous avez eus, trois en l'occurrence, disiez peut-être plus un avec Louis Guilloux, qui était un peu en marge, mais qui a quand même enseigné des choses qui vous restent. Oui. Est-ce que vous vous êtes souvenu de tout cela quand vous êtes vous-même devenue enseignante en philosophie? Et est-ce que vous avez autant aimé enseigner que vous aviez aimé être écolière et étudiante?
Oui, j'ai aimé enseigner la philosophie, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai choisie, qui est aussi une raison un peu négative. C'est la littérature que j'aurais voulu enseigner, mais à l'époque, l'agrégation des lettres classiques comportait deux épreuves, plus que ça, thèmes et versions. Donc, les épreuves de langue
de latin et grec
pour lesquelles j'étais faible. Et j'étais faible sans le savoir, d'ailleurs, au collège. Mais arrivé à Paris en classe préparatoire, c'était absolument évident que j'aurais des notes insuffisantes dans ces matières et qu'il n'y aurait donc que l'épreuve de français pour m'en tirer. Du coup, je me suis dit que c'était pas pour moi. Et j'ai choisi la philosophie plutôt que l'histoire, pour une raison aussi assez prosaïque, c'est que professeur d'histoire, on a beaucoup de classes, pas beaucoup d'heures avec les mêmes élèves, que c'est plus difficile d'enseigner l'histoire.
Ah bon ?
Oui, beaucoup plus, beaucoup plus. C'est plus difficile d'enseigner l'histoire que la philosophie, parce qu'avec la philosophie, on joue sur du velours en sortant le problème du jour et en le sortant de telle sorte que on voit immédiatement l'auditoire réagir. Parce qu'on est quand même plus proche. Si vous dites aux élèves, aujourd'hui on va traiter d'un problème philosophique classique, est-ce qu'on est méchant volontairement? Est-ce que nous avons une volonté du mal? Tout le monde peut réagir, tout le monde a une idée. Du coup, c'est facile de faire court comme ça, quand l'émotion est immédiatement sollicitée. Et le professeur de philosophie, du reste, les élèves en attendent ça. Attendent une sorte de renouvellement, de nouveauté. Donc c'est plutôt plus facile à mes yeux d'enseigner la philosophie que l'histoire. Mais bref, j'ai choisi pour ça.
Et vous avez aimé enseigner la
philo. Et j'ai aimé, oui, j'ai beaucoup aimé.
Vous n'avez pas regretté d'enseigner la philosophie?
Non, pas du tout.
Parce que vous avez aimé. Dans un documentaire qui vous a été consacré, Mona Ozouf, on vous voit un moment dans une salle de classe avec des enfants, c'est vraiment des enfants, des écoliers, et vous dites, finalement, vous n'avez jamais quitté l'école, parce que vous étiez d'abord écolière, oui, comme tout le monde, puis enseignante, puis chercheuse. Vous avez fait de l'histoire, donc. Et quand vous vous êtes mise à l'histoire, vous avez choisi l'école comme l'un de vos premiers sujets d'études, avec un premier livre qui était L'école, l'Église et la République, 1871-1914, puis La République des instituteurs, puis il y a eu une biographie de Jules Ferry, etc. Et donc, c'est à ces enfants qui vous demandent si, au fond, vous n'avez jamais quitté les bancs de l'école. Vous dites, oui, je vois bien que c'est vrai que je n'ai jamais quitté les bancs de l'école, mais est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est une source de joie? Et vous vous tournez vers un petit garçon, puis vous dites,
oui,
j'ai l'impression que c'est plutôt de la tristesse. Il répond, c'est triste.
Il répond ça, ce qui est charmant, d'ailleurs. Je trouve ça plutôt triste.
Et vous comprenez?
Ah oui. Oui, parce que ça n'est pas une vie très aventureuse d'être à l'école, d'y rester, de s'y intéresser, de s'y complaire. Mais enfin, d'en faire le sujet de sa vie, ce n'est pas d'ailleurs mon cas du tout, je m'en suis évadée. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un sujet immédiat. Mais là encore, sollicitations extérieures, beaucoup. Jacques, mon mari, travaillait sur les instituteurs de la Troisième République et avait commencé une grande enquête auprès des survivants. Et puis, au cours de ce travail, qui était son sujet de thèse, il m'avait dit, tu sais, il y a une mine dans la presse autour de l'école, il y a des textes absolument extraordinaires, il y a par exemple des textes qui annoncent que, puisque les filles vont avoir droit à l'instruction désormais, il y aura tout simplement plus de jeunes filles. Le personnage de la jeune fille va complètement disparaître. C'était une sorte de leitmotiv de la presse conservatrice, évidemment. Il m'avait dit, tu sais, il y a des textes étonnants sur la gratuité. Il y a des textes qui disent qu'il ne faut surtout pas imposer la gratuité parce qu'un père de famille ne pourra plus dire à son enfant « Vois ce que tu me coûtes !» Chose absolument inécoutable de nos jours. Donc, il m'avait dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là-dessus, Armand Collin a ouvert cette collection sur la presse et sur l'opinion, et je me suis dit, ce serait possible de faire un petit livre là-dessus, sur l'opinion publique, l'opinion des journaux, sur les grandes lois laïques et sur l'histoire de l'école sous la Troisième République. Et donc, je suis allé beaucoup travailler à la Bibliothèque nationale et j'ai fait ce petit livre. Mais en même temps, c'était une sorte, oui, de dette du bon élève ou de l'élève heureux, probablement. Et puis, il y avait quand même dans ces années-là, exactement dans ces années-là, un extraordinaire procès contre l'école dont nous ne sommes pas tout à fait sortis. Et il y avait un besoin chez moi aussi de répondre d'une certaine façon à ce procès.
Lequel ?
Oh, il y en avait deux. Il y avait un procès que je dirais volontiers vertical et un procès horizontal. Le procès vertical, c'est celui qui établit un lien entre la société capitaliste et l'école. C'est-à-dire l'idée que le capitalisme a eu besoin, à un certain moment, d'avoir des producteurs éclairés. C'est-à-dire de doter les ouvriers d'un savoir minimal, élémentaire. Et donc, les grandes réformes de l'école publique ont répondu à ce besoin économique. Donc ça, c'est un procès causal, vertical. Et puis il y a un procès que je dirais plus volontiers horizontal, analogique, qui n'est cette fois-là pas signé Bourdieu, mais qui est signé Foucault, par exemple, qui assimile l'école à toutes les sociétés closes. C'est-à-dire l'école, c'est un endroit pour surveiller, pour punir, c'est le titre d'un ouvrage fameux de Foucault, endroit pour surveiller, pour punir, comme l'est, par exemple, l'asile, la caserne, la prison. Et donc, qui assimile l'école à ces entreprises d'enrégimentement et de conformisme social. Donc, il y avait à la fois les deux procès qui fleurissaient dans ces années, qui n'ont pas complètement disparu. Bon, aujourd'hui, le procès est aussi vif. Il s'est un peu transformé. Mais enfin, le livre a été écrit dans cette lumière dénigrante pour l'école contre laquelle je me suis tout de suite révoltée.
En même temps, vous reconnaissez, et vous avez reconnu dans vos travaux sur l'école, que l'école est aussi le lieu
des contradictions françaises,
bien sûr,
des dilemmes républicains. Au cœur de ces dilemmes et de ces contradictions, il y a celui qui vous intéresse en propre, qui vous touche en propre.
Oui,
cette idée que l'école, c'est le lieu où, l'universel ignore,
oui,
voire humilie la particularité.
Il veut ignorer la particularité et probablement, oui, et certainement même, l'humilie dans la mesure où l'école n'est pas prête à reconnaître, par exemple, les langues régionales, les coutumes et les usages particuliers.
La diversité, pour le dire aussi en un mot.
Oui, c'est aussi une de mes contradictions. C'est qu'à la fois, je ne méconnais pas tout ce que l'école apporte, et je pense qu'elle continue à être au cœur de la cohésion sociale. En quoi d'ailleurs, je ne suis pas originale, parce que ce qui fait aussi la violence des affrontements autour de l'école, qui jusqu'à une date très récente était la seule cause capable de mettre des centaines de milliers de gens dans la rue. Désormais, elle a été relayée par d'autres revendications. Et pourquoi est-ce que ça a tellement d'incidence, ce problème de l'école? C'est qu'au fond, d'abord, tout le monde pense savoir ce que c'est que l'école, puisque tout le monde est allé à l'école, et aussi parce que les belligérants partagent, sans le savoir, une idée commune de l'école. C'est que l'école est le ciment de la cohésion sociale et que donc l'école porte une incroyable responsabilité. Et du reste, il y a beaucoup d'exemples historiques qui le montrent vraiment. C'est qu'en France, on a généralement été beaucoup plus enclin à attribuer les défaites militaires aux instituteurs qu'aux généraux. Ça a été le cas en 70, qui a vaincu les Français, l'instituteur prussien. Ça a été le cas en 40, évidemment. Ça a fait le fond du pétainisme, la dénonciation de l'école comme démoralisatrice. Donc, il y avait tout ça. Et une atmosphère très polémique autour de ces problèmes.
Vous le déplorez ou vous le comprenez?
C'est les deux à la fois. Je le comprends, j'en déplore les excès, oui.
Mona Ozouf, aujourd'hui, on est en 2023, il y a une école qui porte votre nom.
Oui.
À Banalek.
Oh, il y en a beaucoup plus.
Ah, il y en a plus que ça, j'en ai vu qu'une. Ah, bah,
il y
voyez.
En a beaucoup plus.
D'accord. Ça vous fait quoi?
Oh, écoutez, non seulement ça me fait toujours une grande émotion qu'on me demande de baptiser une école, mais la dernière que j'ai baptisée, non seulement m'a ému, mais j'y ai vu une sorte de signe du destin. C'est une école du Finistère dans la commune où je suis né. Premier point. Deuxième point, cette école, j'en ai entendu parler dans toute mon enfance parce que ma mère a été dans cette école, élève, et cette école laïque, ma mère la vit comme un lieu absolument enchanté. On me demande de la baptiser et j'apprends que c'est une école bilingue, que c'est une école breton-français, où je retrouve donc le combat de mon père. Voilà, je trouve que c'est un petit miracle. Je ne suis jamais sortie de l'école, donc.
Merci, Mona Ozouf. Rendez-vous demain pour la quatrième émission, si vous êtes avec
moi. À demain, Caroline Bamboui.
Bonne soirée. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.